Amen. Pendant les mois qui viennent de s'écouler depuis le 11 novembre, nous avons évoqué les manifestations d'arrivée du Christ dans le monde et dans nos vies. Avec un temps de préparation pendant le temps de l'Avent, nous avons fêté sa nativité, nous avons fêté l'épiphanie, la théophanie, les noces de Cana. Et nous commençons aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, un autre cycle liturgique, un cycle mobile basé sur le calendrier lunaire. C'est le cycle pascal. Et il commence aujourd'hui avec le temps des Gésimes et il se terminera, comme je vous le disais, avec donc le dernier dimanche après la Pentecôte. Ce temps est consacré au mystère central de notre vie, le mystère pascal, qui est le passage de la mort à la vraie vie. Pendant cette période, nous allons évoquer les achèvements et les réalisations du Christ, en passant par sa mort et sa résurrection, son ascension au ciel et la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans une première partie du cycle, celle que nous commençons aujourd'hui, nous allons prendre conscience de notre éloignement de Dieu. Puis viendra le carême, cette période de travail sur nous-mêmes pour nous préparer à retrouver l'intimité avec le Christ en allant jusqu'à l'accompagner dans sa passion lors de la Semaine Sainte. Viendra alors l'explosion de joie de la fête de Pâques où le Christ a vaincu la mort, nous montrant qu'il est plus fort que la mort et que celle-ci n'est pas la fin de tout. Alors, comme vous avez remarqué aussi, les couleurs liturgiques ont changé. Et nous avons d'abord à voir le violet, qui symbolise la sagesse, la pénitence, et qui va nous accompagner dans le temps des Gésimes et du Carême. Puis viendra le blanc et or, la couleur de la joie, de la lumière, qui nous accompagnera jusqu'à la veille de la Pentecôte. Le rouge, le symbole du feu, de l'Esprit-Saint pour la Pentecôte. Et son octave. Et enfin, bien sûr, après, le vert, le symbole d'espérance et de régénération pour le temps après la Pentecôte. L'hymne et les chants que nous avons entendus aujourd'hui, au début de la liturgie, et que nous allons entendre d'ailleurs jusque Pâques, comme vous avez remarqué, sont un peu plus plaintifs, avec un profil de questionnement, de lamentation, de repentir. Et aujourd'hui, pour le dimanche de la Septuagésime, nous commençons avec un évangile qui nous montre justement l'écart, l'éloignement entre la vision de Dieu pour le monde et l'état du monde, entre la vision de l'amour et de la justice vue par Dieu ou bien par l'humanité. Alors la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure est révélatrice dont le monde, dans la façon dont le monde voit les choses. Et reconnaissons-les, aux yeux du monde, il y a quelque chose de choquant et d'inacceptable dans cette façon pour le maître de maison de traiter les ouvriers qu'il a envoyés à sa vigne. Si Cash Investigation ou bien si Question à la Une, vous savez, faisait un reportage sur un patron qui aurait un tel comportement pour ses ouvriers, vous pouvez être sûr que les réseaux sociaux se répandraient avec véhémence en insultes, en demande de justice vis-à-vis de ce patron. On crierait au scandale, à l'exploitation. On en appellerait au respect des droits de l'homme, à une punition exemplaire, tant nous sommes imprégnés d'une vision proportionnelle et rationnelle dans nos relations humaines. Oui, un regard coupé de Dieu va abonder dans ce sens. Parce que notre vision de l'amour est une vision limitée et de troc proportionnel à ce qu'on donne. Pour le Christ, l'amour est illimité. Il ne se mesure pas. Et saint Bernard disait, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Sans relâche, le Christ revient vers nous pour nous inviter. L'amour du Christ n'a pas d'échelle barémique. L'amour de Dieu n'est pas une récompense liée à nos mérites, à notre travail. Dieu nous aime inconditionnellement, sans limite. Il ne faut pas avoir fait des choses grandioses ou particulières ou extraordinaires pour être aimé de Dieu. Il suffit simplement de dire « Oui, Seigneur, je suis là. Que veux-tu faire de moi ?» Lorsqu'à la dernière scène, le Christ a distribué le pain à ses disciples, il l'a donné à tous, sans distinction, malgré qu'il savait que l'un allait le trahir quelques heures plus tard, un autre le renier, un troisième refuser de croire en sa résurrection tant qu'il ne l'aurait pas vu et pas mis sa main dans son côté, deux autres qui s'y disputaient pour savoir qui serait le plus proche de lui dans le royaume de Dieu. Et le Christ n'a exclu personne de ce repas. Regardons autour de nous tous les jours, même dans nos églises et nos paroisses, la tentation est grande de se conduire en justicier. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous montre toute la détresse de Dieu pour son peuple qui s'est éloigné, qui s'est détourné de lui. Dieu s'adresse à son peuple en ces termes. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant ? Ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son prophète Jérémie, c'est « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est devenu votre élan de vie ? Qui est devenu votre Dieu ?» Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, nous rappelle que si par le baptême nous avons revêtu l'homme nouveau qui est en chemin vers la connaissance et vers l'image de celui qui l'a créé, alors, dit-il, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ qui est en tout et en tous. Le Christ est venu restaurer l'image de Dieu en l'homme. Dans le Christ, il n'y a plus de différence, plus de différence de race, de classe sociale. L'Église se doit de tendre toujours plus vers cette nouvelle façon d'être. Le Christ n'attend de l'humanité qu'un oui amoureux à son offre d'amour, son offre qui n'est pas temporaire, mais qui est éternelle. Il n'attend pas des canons institutionnels qui cadenassent l'élan de vie et prennent le dessus sur l'amour et la miséricorde. Et Paul nous énumère les signes d'une vraie réponse amoureuse. La tendre compassion, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel, la charité, et que la paix du Christ règne en vos cœurs. Vivez dans l'action de grâce, nous dit-il. Voilà le programme auquel il nous invite à participer. Mais c'est un programme exigeant et difficile à suivre. Alors prenons conscience de la distance entre l'attitude d'amoureux fou du Christ et notre comportement dans le monde, de la gangrène qui nous ronge avec nos jalousies, notre inclinaison à nous comparer aux autres, nos appétits de pouvoir. Aimons et laissons-nous aimer. À lui soit honneur, gloire et louange, au siècle des siècles. Amen.